Majid Cherfi, vous êtes surtout connu comme chanteur, Alain l'a rappelé, vous étiez le chanteur et le parolier du groupe toulousain Zebda. Toulouse, c'est là que vous avez grandi, dans les quartiers nord, et vous racontez dans ce livre, Ma part de Gaulois, votre année de terminale, l'année du bac.
Une émission tirée du livre Ma part de Gaulois.
De Majid Cherfi.
Et du film du même nom, réalisé par Malik Chiban en 2024.
Vous avez été, Majid Cherfi, ce que vous appelez le premier bac de la cité.
On a tous une part de Majid.
Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission spéciale autour de Ma part de Gaulois, un livre de Majid Cherfi et un film de Malik Chiban. Lors de ce direct, vous allez entendre des témoignages, des chroniques et une interview de notre invité bien sûr, n'est-ce pas Dina ?
Et oui Raph, car sur le plateau, avec Zagan, Élise, Julia, Zara, Andrea et Carmen, on a le plaisir d'avoir avec nous Serge Sala, qui est principal de collège et avec qui nous allons échanger sur l'œuvre de Majid Cherfi.
Oui Dina, parce que selon nos informations, et on en saura plus tout à l'heure, il y a quelques points en commun avec lui. En même temps, il faut dire qu'on a tous une part de Majid. Serge, si vous le voulez bien, on va vous proposer de réagir à toutes les chroniques que nous avons préparées autour de Ma part de Gaulois. Il va être question d'école, d'identité, d'amour des mots, de la littérature et encore plein d'autres choses. Mais comme une petite news en bouche, on va commencer par vous faire écouter tout de suite une présentation audio de notre projet.
On a tous une part de Majid.
On a tous une part de Majid.
Je suis née à Toulouse en novembre 1962. Issue d'une famille kabyle, couvée par ma mère, mes bons résultats dès la petite école m'ont valu d'être traité de PD par mes camarades. Ce qui ne m'a pas empêché de devenir une sorte d'écrivain public dans la cité, chargé par les uns de la correspondance familiale ou par les autres des courriers administratifs.
On a tous une part de Majid.
Quant à l'école de la République, elle était un sanctuaire où, jusqu'à 5 heures, on était peu ou prou protégés des sales arabes, des rentes chez toi.
J'ai vite délaissé les parties de foot pour les livres.
J'écris des poèmes, malgré les baffes et les coups que ce genre d'occupation récolte souvent de la part des autres gosses de la cité.
On a tous une part de Majid.
Jusqu'à la terminale, je me suis accroché aux mots. Je me suis lancé avec passion dans l'atelier théâtre du lycée. J'ai écrit des pièces, j'ai chanté Brassens.
Balzac, Flaubert et Hugo étaient des présences fraternelles au-delà des punchlines de la cité. Et puis est venu le baccalauréat. Alors, le miracle a lieu.
On a tous une part de Majid.
Enfin, je me jetais donc à corps perdu sur tous les dictionnaires de rimes et autres anthologies de la poésie française. Je mêlais sans scrupule des vers de René Char, d'Éluard ou d'Apollinaire avec mes minables élucubrations. Sans vergogne, je mélangeais le kérosène des grands avec mon fioul domestique. Je défouraillais 12 pieds comme autant de balles dans un barillet. Ma mère, qui prenait mes heures de scribouillage pour des devoirs, me baisait le front, je tiltais sur tous les tableaux.
Un projet radioplastique de boîte sonore, réalisé à partir du livre « Ma part de Gaulois ».
De Majid Cherfi.
Aux éditions Babel.
Un livre de 2016.
Et du film du même nom, réalisé par Malik Chiban en 2024.
Avec les voix
et le talent
de Andrea, Carmen, Dina, Élise, Julia, Raph, Zara et Zagan.
Et on a même la voix de Majid Cherfi.
Voilà un petit aperçu de ce qu'on a fait cette semaine. Avant de vous dire comment on s'y est pris durant cette semaine intense, je voulais savoir, Serge, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Beaucoup de points communs, des faits où ça me parle beaucoup parce qu'il y a des choses que j'ai vécues qui ont été racontées, qui ont été décrites par Majid. Et donc, à la fois des différences aussi. Donc, ça m'a perturbé de lire des passages de ce livre, de regarder des extraits du film parce que je n'ai pas tout vu et tout lu. Mais ça ne m'a pas laissé insensible.
Est-ce que vous avez des points communs avec Majid Cherfi ?
Alors, comme lui, je suis d'origine algérienne et j'ai été élevé dans le sud-ouest, dans un petit village à côté de Tarbes. Et comme lui, l'école a été un moyen pour essayer de trouver une identité, de m'affirmer. Enfin, j'ai surtout ces deux points communs.
Merci. On a donc commencé par regarder le documentaire « Moi, Majid Cherfi » de Rachid Oujdi pour rencontrer un peu cet auteur. On a lu des extraits de son livre, puis on a visionné le film « Ma part de Gaulois ». Je ne vais pas vous le résumer, vous aurez sans doute l'occasion de le voir par vous-même plus tard, mais sachez qu'il y a pas mal de thèmes qui nous ont inspirés là-dedans.
Ensuite, on a recréé l'univers du film à travers des boîtes qu'on a chacun personnalisées et qui seront exposées dans plusieurs lieux, dont la MDA. Ces boîtes sont assorties d'audio avec nos voix qui présentent les personnages. Et pour ça, on s'est tous mis dans la peau de Majid. On appelle ça des boîtes à histoire sonore.
Dans Ma part de Gaulois, il est beaucoup question de rapport à l'école. C'est un aspect qui a particulièrement intéressé l'une d'entre nous. Élise, tu veux bien nous en parler ?
Oui, Raph, avec plaisir. Dans Ma part de Gaulois, les études sont essentielles pour Majid car elles représentent pour lui un moyen d'ascension sociale et d'émancipation. Venant d'un milieu populaire et confronté au racisme, il voit l'école comme une opportunité de s'en sortir et de prouver sa valeur. Grâce aux études, il espère dépasser les limites imposées par son environnement et accéder à un avenir meilleur. C'est aussi un moyen pour lui de se construire une identité et de trouver sa place dans la société.
C'est vrai que c'est essentiel pour Majid. Et toi, Élise, qu'est-ce que tu en penses ?
Au vu de la société en général, les études, c'est super important parce que ça ouvre des opportunités. Un bon niveau d'éducation, ça permet d'accéder à des jobs plus intéressants et mieux payés. Mais ce n'est pas juste une question de travail. Ça aide aussi à développer des compétences essentielles. Apprendre à réfléchir, à résoudre des problèmes, à s'adapter, des trucs qui nous servent toute la vie. Plus tu as de connaissances, plus tu es indépendant et capable de gérer tes choix sans dépendre des autres. Et puis, il ne faut pas oublier l'esprit critique. Aujourd'hui, on est bombardé d'infos de partout, donc il faut savoir analyser, trier et pas gober n'importe quoi. C'est essentiel. Au final, les études, c'est bien plus qu'un diplôme. C'est une vraie préparation à l'avenir, que ce soit pour une carrière ou pour des projets personnels, ou pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Même si pour moi, tu peux quand même réussir ta vie sans passer des années et des années à étudier. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez penser que moi-même, je suis une bonne élève, mais ce n'est pas totalement vrai. Personnellement, mon parcours scolaire est légèrement catastrophique. J'ai redoublé ma quatrième pour pouvoir partir en MFR, et toute mon année de troisième, je l'ai passée déscolarisée contre ma volonté. J'avais perdu toute motivation, puis j'ai réussi à relever la pente. Désormais, je suis en pleine formation et je fais un CAP restauration et je m'en sors très très bien. Donc vous voyez que même sans le brevet ou le bac, on peut réussir.
Merci Élise. Serge, on aimerait savoir votre regard sur le témoignage d'Élise, si vous le voulez bien. Et on imagine que c'est un thème qui vous parle particulièrement.
Ben oui, parce que j'y travaille encore, dans l'école. Je ne l'ai pas quitté en fait. Je suis d'accord avec vous, ça m'a énormément aidé à me construire, à construire mon identité. Mais c'est aussi les premiers moments violents avec la société. Parce que je me rappelle très bien de mon premier jour d'école. J'arrive en maternelle, j'avais des cheveux à la Jackson 5 un petit peu. Et là, on me regarde et on me dit, mais pourquoi t'es marron ? Donc là, on ne m'a jamais posé cette question, donc c'était des gamins. Et ça finit par sale arabe dès le premier jour. Mon premier jour d'école, je me suis battu. Et donc mes parents étaient convoqués le premier jour d'école à 3 ans. Voilà, donc ça commence mal. Et moi, je suis sorti, je ne veux plus y aller. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire sale arabe. C'est-à-dire que même chez moi, associer sale arabe, je ne l'avais jamais entendu. Donc c'est mon premier contact à l'école, c'est ça. Voilà. Mais autant vous dire que ça s'est bien passé. Hein, mais le premier a été violent.
Et est-ce que vous connaissez le livre de Majid Chaoufi ?
Alors, j'ai vraiment essayé de travailler un petit peu avant de venir, parce que vous avez vu que c'était un petit peu précipité. Donc, j'ai lu des passages et j'ai vu des extraits du film pour savoir de quoi on me parle quand même. Mais j'étais un grand fan de Zebda et Majid Chaoufi. Donc, toute ma vie d'étudiante, j'écoutais énormément Zebda et les groupes qui gravitaient autour de Zebda. Donc, c'était vraiment un modèle. Pour moi, par sa réussite, etc.
Merci. En quoi ce personnage fait partie de personnalités qui vous ont marqué ?
C'est la première personne que j'ai vue qui me ressemble en plus physiquement et qui pouvait dire les choses que je ressentais avec des mots que j'avais pas moi la pêche, la chanson, tout ça, mais les paroles, et ça me parlait, quoi. Je me disais, mais enfin, j'entends des choses que j'ai envie de dire depuis tout petit, quoi. Et c'était formulé tellement bien que de suite...
Merci. Parmi tous les thèmes de Ma part de Gaulois, il y a aussi celui de la famille, qui est très présent. Et c'est de celui-là que Zara va nous parler tout de suite.
Dans les films, à part de Gaulois, la famille prend une place très importante. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre eux. Le père et la mère ont du mal à se parler. Surtout le père d'ailleurs, qui ne dit jamais ce qu'il ressent et qui essaie de ne pas comprendre sa femme et ses enfants. On voit aussi Farid, le grand frère de Majid. Ils sont pas très proches. Je pense que Farid est un peu jaloux parce qu'il voit que Majid est le chouchou de leur mère. Je trouve que c'est assez réaliste. Le manque de communication, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de familles. Et c'est tellement dommage, des fois on s'écoute pas alors qu'on pourrait avoir une belle relation. Seulement on savait se parler. La mère qui met beaucoup la pression sur Majid, ça aussi c'est réaliste. Généralement, c'est vrai que c'est plutôt les mères qui poussent les enfants pour la scolarité. Les pères sont moins impliqués. Pourtant, avoir le soutien de ses deux parents, c'est mieux. Quand le père est trop absent, on se sent abandonné. La présence physique, elle suffit pas. On a besoin des deux pour se sentir aimé, soutenu et pour bien grandir.
Tant que nous sommes dans la famille, on a un autre témoignage à vous faire entendre, c'est celui d'Andrea. Il a bloqué sur une chose en particulier dans ce film.
Moi, dans ce film, je suis resté bloqué sur le père de Majid. Il était rigolo, il faisait des gros yeux parfois. Et puis, c'est pas trop lui qui décide à la maison. Il faisait le mec pas trop intéressé par son fils. Il était à fond dans son travail. Mais il était là quand on avait besoin de lui. Il aime pas trop montrer ses émotions. Il a de la pudeur. Moi, cette relation, elle m'a fait penser à la mienne avec mon père. Lui aussi cache ses émotions devant ses enfants. Il a jamais pleuré devant nous, par exemple. Par contre, contrairement à Majid, moi je parle avec mon daron. On a des discussions souvent de tout et de n'importe quoi. Et je doute pas une seule seconde qu'il s'intéresse à moi. Et si moi j'avais eu mon bac, je suis pas sûr qu'il aurait pleuré. Mais sans doute, il aurait été très ému. Il aurait même organisé une très grosse fête, ça je le connais.
Vous avez entendu le témoignage de Zara puis celui d'Andrea. C'est encore un sujet qui pourrait faire similitude avec votre parcours ?
Alors, avec Majid, pas trop, parce que j'ai vu des extraits du film. Donc, ma famille, d'abord, je suis métisse, donc ma maman est française. Par contre, mais c'était plutôt mon père qui me mettait la pression sur l'école que ma mère. C'est-à-dire que dans les extraits où j'ai vu mon père dans la mer, en fait. Donc, mon père, c'était il fallait que tu sois le premier élève de la classe. Je ne pouvais pas, si j'avais 18, pourquoi tu n'as pas eu 20 ? Voilà. C'était ça la réponse. Donc, c'était très important l'école, mais plus mon papa que maman.
Dans vos travaux, est-ce que vous remarquez des différences entre père et mère dans le soutien qu'ils apportent à leur enfant ?
Alors, je vais être très franc avec vous. Dans la société française, sur 10 rendez-vous avec les parents, je vois 9 mamans et un papa. Voilà, les papas sont très peu présents dans le suivi de la scolarité. Et c'est un schéma où on dit que c'est la maman qui doit suivre la scolarité. Alors, je vois des papas aussi, je ne dis pas, mais la proportion, c'est 9 mamans pour un papa, à peu près.
Maintenant, nous allons changer de sujet avec un autre thème très présent dans cette œuvre, le quartier. Et on va écouter Carmen.
J'ai eu envie de parler de ce sujet.
Et pourquoi ?
Ah, eh bien, parce que comme Majid, j'ai grandi dans une cité. À Lyon, par contre, pas à Toulouse. Et comme lui, j'aime beaucoup l'écriture. Vous voyez, Serge ? Moi aussi, j'ai une part de Majid.
Ok, Carmen. Et acceptes-tu de nous lire ton texte ? Enfin, un de tes textes ?
Oui, avec plaisir. D'ailleurs, c'est grâce à ce texte que j'ai gagné un concours d'écriture. On vit dans un monde trop conceptuel, là où les beaux sourires sont souvent superficiels. On s'insulte pour se dire « je t'aime ». Depuis gamin, voit nous-mêmes, c'est comme ça qu'on est conçu. Les darons absents, les orcos déçus. Parents-enfants, on échange les rôles. On porte le poids du monde sur nos épaules. On va pas souvent à l'école. Pourtant, on enchaîne les heures de colle. En classe, on n'est jamais assis devant. Peut-être parce qu'on est différent. Non, on fait pas partie du premier rang. Mais la vraie vie, on la connaît. Et pas à travers nos écrans. Les gones font du troc, coincés dans l'escalier du bloc. Ils se prennent pour Manu le coq. À peine 12 ans, ils ont déjà gratté la coque. Les petites sœurs en cloque, les rats roulent en loque. Pas besoin d'être en prison pour vivre dans une cage. C'est partout les mêmes frissons. Pour s'en sortir, on a la rage. Trop d'enfants, complices, innocents, souvent retrouvés morts sur le ciment. Parce que c'est pas les mots d'amour qui réchauffent nos frissons, non. Admire, ma haine danse sur ce son. J'ai zoné pendant des années, l'impression d'être condamné. Devant ma mère, toujours le même frisson, les rares fois où je rentrais à la maison. On fait pas les cours chez H&M, non. On zone en bas des HLM. On se fait chasser par la BAC pendant que les plus riches vont à la fac. On est des passionnés du crime. On s'en inspire pour écrire nos rimes. La rue, c'est stupéfiant. Et y a pas que des stupéfiants. Tout s'achète, tout se vend. On sait jamais ce qui nous attend. Seuls les soirs, on frissonne. On veut rien devoir à personne. L'espoir de rouler sur l'or. J'ai trop zoné pendant des années. L'impression d'être condamné. La peur de voir ma vie défiler au moins de 2 minutes chrono à force de toujours devoir filer. Je crois que je suis devenue parano. C'est partout les mêmes peines, le même honneur. On attend tous le même bonheur. Et là, je vous parle avec le cœur. Bienvenue dans mon secteur.
Merci beaucoup. C'est très puissant.
Serge, vous commencez à comprendre le principe de cette émission. Un mot sur les quartiers. Vous avez travaillé comme enseignant au 4000 de la Courneuve. Vous en gardez quoi comme souvenir?
Ah, les meilleurs souvenirs de ma vie et les pires, si je peux. Ben, les meilleurs parce que ça, vraiment, si je suis principal de collège, c'est parce que je suis allé travailler à la Courneuve. Parce qu'il y a des problèmes qui sont tellement énormes que ça déclenche chez vous une envie. Vous savez pourquoi vous allez au travail. Donc déjà, c'est extrêmement motivant. Et après, j'ai découvert un monde où j'ai découvert une autre forme de racisme. C'est-à-dire, j'étais un extraterrestre parce que je mangeais du cochon. Je m'appelle Serge. Malik. Pourquoi tu t'appelles Serge et pas Malik? Salah, c'est un prénom, donc on m'appelait Monsieur Serge. Parce que Salah, c'est un prénom. Donc systématiquement, j'étais le seul enseignant qu'on appelait Monsieur Serge, le prénom. Et on m'a renvoyé des choses, t'as rien à faire là, t'es pas d'ici. Et comme je vous dis aussi, des super moments, des fêtes du Ramadan, des mamans qui m'amènent, qui me nourrissent, qui m'invitent. J'ai découvert la vie de cité avec tous ses avantages et tous ses inconvénients aussi. Je suis d'accord avec ton formidable texte. Ça te remue la cité. C'est des extrêmes. Donc, ça a été un moment très enrichissant.
Merci.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, et moi j'ai une part de Roumanie et une part de fierté.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part de Toulousain et d'incompréhension.
Ma petite Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part de voyageur.
Moi j'ai une part d'extraterrestre.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part algéro-audoise et une part de musique.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part d'Algérie.
Moi j'ai une part d'équatorienne et une part de confusion.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part d'étrangeté face au monde qui m'entoure.
Moi j'ai une part de footballeur.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part de connerie.
Majid Cherfi a une part de Gaulois, moi j'ai une part de rugbyman et de gâteau à la broche.
Moi, j'ai une part de Méditerranée, une part de spontanéité.
On a tous une part de Majid.
On a tous une part de Majid.
Majid, dans sa quête d'identité, a pas mal évoqué les pressions qu'il a dû affronter. Et c'est Dina qui s'en charge de nous parler.
Dans le film, Majid grandit dans une cité où l'avenir semble déjà tracé pour les jeunes issus de son milieu. Pour la majorité des gens venant du quartier, les gens qui réussissent à l'école trahissent leurs origines. En visant le bac, il est considéré comme une personne voulant se sentir au-dessus des autres et ce qui peut être mal perçu par certains. Ses amis, souvent en échec scolaire ou orientés vers des filières professionnelles, ne comprennent pas son ambition et peuvent même le tirer vers le bas. Cette pression se manifeste par des moqueries, des remarques. Majid fait face à un dilemme qui est rester fidèle à son environnement ou poursuivre ses rêves mais qui le fera se sentir exclu. Ce dilemme, je l'ai connu, surtout quand j'étais au collège et au lycée. Tous mes potes en dehors des cours n'étaient pas scolarisés ou pour une grande majorité.
Quand ils me proposaient de sortir pour faire des conneries avec eux et que je leur répondais que je ne pouvais pas car j'avais cours, ils se moquaient de moi. Ils disaient que l'école ne servait à rien et que j'allais bien finir comme eux en allant vendre de la drogue ou en allant voler des gens. Heureusement que le foot est arrivé pour occuper les jours où il n'y avait pas cours. Ça m'évitait d'aller faire des conneries avec eux. On me disait souvent « on devient comme les gens que l'on fréquente ». Or maintenant, je suis en deuxième année de fac, et eux, la plupart sont en prison, certains morts, et d'autres à la rue. Je pense avoir fait le bon choix dans ce tiraillement identitaire, car quand je les recroise dans la rue, ils sont tous fiers de moi et disent que je fais honneur au groupe.
Merci, tu nous as parlé de la pression au quartier. Est-ce que tu en as vu d'autres ?
Oui, j'en ai vu plusieurs. Dans le film, on voit également que sa mère joue un rôle clé dans cette pression sociale. D'un côté, elle est celle qui le soutient le plus, elle veut qu'il obtienne son bac. Elle a réussi à changer son orientation, qui semblait toute tracée vers l'enseignement professionnel. Pour elle, l'éducation et le savoir sont primordiaux. Mais d'un autre côté, elle fait face à quelques contradictions. La famille reste attachée aux traditions et aux valeurs du pays d'origine, et c'est ce qui crée un dilemme de plus pour Majid. Il va jongler entre les attentes de sa mère et celles de son quartier, tout en essayant de construire sa propre identité. Mon père aussi était comme ça. Il voulait que j'aie mon brevet et mon bac. Il s'est sacrifié pour me payer des écoles privées. Le problème étant qu'il ne voulait pas croire aux difficultés d'apprentissage que j'avais, et donc, il me menaçait constamment de me punir. Par exemple, il m'a privé de foot pendant 3 ans car je n'avais que 13 de moyenne générale. Pour lui, ça venait de là. Sauf qu'en m'arrêtant le foot, ma moyenne a encore plus chuté. Il croyait que je le faisais exprès, et il en a conclu que j'étais une cancre et que j'étais égoïste. Les profs au lycée aussi ont douté. Personne n'a cru une seconde que j'aurais mon bac. Et finalement, je l'ai eu du premier coup sans aller au rattrapage. Cette pression montre que dès le plus jeune âge, les inégalités sociales sont renforcées par un système qui ne veut pas croire en la réussite scolaire des élèves issus de milieux populaires. Toutes ces pressions extérieures peuvent créer un profond conflit intérieur chez Majid. On voit qu'il veut réussir, mais qu'il ressent une part de culpabilité à s'éloigner de son milieu d'origine. Il a peur de ne plus être en phase avec ses amis, de décevoir ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances que lui, et de ne jamais être totalement accepté, ni dans son quartier, ni dans la société française. Cela illustre le poids de la double culture, que je connais très bien personnellement. Comment rester fidèle à ses racines, tout en s'intégrant dans une société qui vous perçoit comme différent ?
Serge, vous avez un mot à ce sujet ?
Ah, tu parles de choses qui me touchent profondément, mais là, je reste un peu sur le... J'ai... Non, en fait, cette pression que tu racontes, j'ai eu la même. C'est pour ça que ça me touche un peu ce que tu dis, parce que j'avais l'impression de jamais faire bien. Pourquoi t'as pas 18 ? T'as 18, pourquoi t'as pas 20 ? C'était mon père qui faisait ça. Alors, comme toi, avec beaucoup... Je vois la bienveillance qu'il avait. Il avait vraiment envie que son fils soit le premier de la classe. Et un jour, je suis rentré. C'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre. Un jour, je reviens à la maison et je dis, ben voilà ce qu'on m'a dit en cours. J'avais eu 18 ans, une épreuve d'histoire géo, et j'avais eu la meilleure note de la classe. Et la prof avait dit à toute la classe, vous n'avez pas honte, c'est Serge qui a eu la meilleure note. Alors, ce que tu viens de dire, voilà. Ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre, excuse-moi. Mais du coup, tu m'as parlé d'un truc qui me touche énormément. Et donc, moi, je suis allé voir la prof, mais vous êtes ignoble. Et donc, ça s'est très, très mal passé. Mon père est venu, c'est parti en vrille, parce que mon père, il n'a pas supporté d'entendre ça. Moi, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, mais c'est la pire humiliation que j'ai vécue de ma vie, et à l'école. Alors, c'est pour ça que je te dis, j'y suis encore à l'école, mais c'est le début de... tu apprends la vie en société, quoi, à l'école. Donc, aussi, ce qui est violent. Et aussi de la part des adultes. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est que les enfants qui sont violents.
Merci.
Merci beaucoup. On continue avec un autre aspect présent dans le livre. La place essentielle de l'écriture qui permet l'émancipation de Majid. Julia a tenu à élargir la réflexion à la passion. C'est bien ça, Julia ?
C'est ça.
Pour Majid, la découverte des passions était quelque chose de très important. La musique et l'écriture lui ont permis de s'intégrer tant au quartier comme au lycée. Je pense que c'est pouvoir des passions. C'est vrai pour Majid, mais aussi un peu pour tous. Par exemple, moi, c'est justement à travers de la musique que j'ai souvent trouvé ma place. Lors de projets au lycée, avec mes amis, dans des concerts, j'ai toujours admiré la capacité de la musique à nous unir, à toucher, émouvoir. motiver et réunir même des milliers de personnes autour d'une seule chanson. C'est donc grâce à la musique que j'ai intégré des groupes. Majid Cherfi parle dans le documentaire de Rachid Oujdi des groupes et de comment il est passé de vous à je. Je vous propose maintenant d'écouter sa voix.
C'est à plus de 50 ans que je retrouve Majid. Donc j'ai été le traître, j'ai été le français, j'ai été le bœuf en daube parce que j'étais grassouillé, j'étais Zelda, j'étais chemise, j'étais... Enfin, par exemple, moi, on me dit souvent « vous » parce que je suis intégré à des groupes. Vous les motivés, vous les quartiers, vous les beurs. Il y a un moment où je me suis dit, il va falloir aller plus loin, que j'accède au jeu, être interpellé dans mon intimité. Moi, c'est Majid.
Il parle donc aussi de son identité individuelle, de sa place dans le monde. Et pour moi, l'écriture a un rapport essentiel avec cette identité. Majid Cherfi a souvent écrit pour les autres, au nom des autres, mais il a aussi ressenti le besoin de parler pour lui, d'écrire en son nom. Et il l'a fait, notamment dans sa carrière solo d'artiste, puis bien sûr dans ses livres. Ma part de Gaulois représente, pour moi, cette force qu'a l'écriture. Qui suis-je ? C'est une question qu'on s'est souvent posée, et la réponse est bien trop complexe, mais à mon avis, on est ce qu'on retrouve dans tout ce qu'on écrit. Car on y laisse une trace de tout ce qu'on ne voit pas, et ces mots, en contact avec le monde, avec les autres, deviennent en quelque sorte une réalité, une partie de nous. De tout ça, je retiens donc que la passion permet de se trouver et de trouver sa place dans le monde, de s'intégrer à ces endroits auxquels on ne pensait pas appartenir et de se distinguer de cette image qui nous renfermait. Pour moi, comme pour Majid, vous l'avez compris, c'est la musique et l'écriture. Pour d'autres, c'est le foot, le dessin, la danse, la vidéo, la cuisine. À chacun sa passion.
Et vous, Serge, c'est quoi votre passion ?
Alors, ça a été longtemps la musique, parce que j'ai commencé comme toi. En fait, la musique m'a beaucoup apporté aussi. Alors, c'est la musique classique. Je t'avoue que c'est beaucoup mon métier. Et c'est pas terrible. Mais j'avoue que c'est beaucoup mon métier, ma passion. Mais la musique a été... J'étais dans un orchestre à plectre, guitare mandoline. Et donc, ça m'a aidé à m'ouvrir au monde.
On écoute maintenant Zagan qui évoque les absents qui sont finalement toujours présents dans nos vies.
Dans le film, on voit la maman de Majid qui parle à la photo de son propre père alors qu'il n'est plus là. Elle fait ça pour aider son fils. Quand je vois le film, j'ai beaucoup pensé à mon grand-père. On avait nous aussi une photo de lui dans la chambre, en noir et blanc et très bien habillé, comme dans le film. Mon grand-père, il n'est plus là. Je ne l'ai même jamais connu, mais mon père m'en parlait beaucoup. Il me dit que c'était un personnage important au village en Côte d'Ivoire. Il faisait des médicaments traditionnels. Il était le guérisseur. Il savait aussi interpréter le cauchemar. Et mon père, il a appris de son père. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai fait des cauchemars, j'essaie aussi de le comprendre à partir de ce qu'il m'a appris. Lui. Les personnes importantes, elles le restent, même si elles sont plus là.
On se rapproche doucement mais sûrement de la fin de l'émission. Serge, on vous laisse le mot de la fin. Rassurez-vous, on reprendra la parole après vous.
Mais déjà, bravo pour cette émission. Vous avez vu, j'ai du mal à répondre quand même. Vous avez... c'était très très profond. Je veux pas quand même partir en vous laissant une mauvaise image de l'école, de ce que j'ai dit de l'école. Je travaille à l'école, donc vous doutez bien que j'en pense énormément du bien, si j'y suis resté, hein, quand même. Je suis d'accord avec vous, c'est quand même ce qui permet de se connaître, de se construire, même si les parents ont beaucoup de place dans la construction de l'individu. Mais l'école, moi, ça m'a permis à la fois de prendre certains repères et de m'émanciper de qui je suis et mettre un peu une identité à ma personne. Et je remercie l'école pour ça et tellement bien que j'y suis encore. Voilà. Je vous souhaite à tous de bien vous connaître parce que c'est très, très important de partir sur des bases solides. Connais-toi toi-même. Et j'espère que bonne continuation à tous. Et merci pour votre invitation.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. On espère que ça vous a plu.
Merci Serge d'être venu et d'avoir partagé un peu de votre vie avec nous.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup à Madame Giruit de nous avoir amené ici.
Et merci beaucoup à Jean-Jacques et à Christelle pour les pains au chocolat ou les chocolatines. Ça a été le débat de la semaine. Et merci pour tout le reste aussi.
Merci à la MDA, à toute l'équipe des STU.
Et merci à Madjid Cherfi, bien sûr. Au revoir.